Frédéric Bosquet fait entendre sa voix dans le domaine de l'économie et des monnaies complémentaires. Dans la deuxième partie de l'émission La Voix du Colibri, Frédéric nous explique comment, en tant que citoyen, nous avons du pouvoir, le pouvoir d'achat. Frédéric, fais-moi rêver. Peut-on croire qu'on puisse un jour avoir le choix de payer un produit ou un objet avec une autre monnaie que l'euro ?
Alors, tu auras le choix dans la mesure, alors c'est ça l'idée, c'est que tu auras le choix d'acheter une baguette qui a été fabriquée avec la farine qui a fait 8000 km pour venir jusqu'à nous, et dont le pain a été fabriqué par un boulanger qui traite ses salariés comme des moins que rien, ou alors c'est d'acheter une baguette bio qui est respectueuse des humains et de la nature, dont les salariés travaillent dans des conditions de travail acceptables, avec une farine qui est bio, et cette baguette-là, à ce moment-là, oui, elle pourra être vendue en colibri. Mais pour ça, il faudra que la personne qui le vend fasse la preuve que sa production est bien respectueuse des hommes de la nature. C'est en ça que je dis que les monnaies complémentaires ou les monnaies citoyennes sont comme un label qu'on appose sur la monnaie. Parce que j'ai mes amis décroissants, par exemple, souvent ils me disent « Ouais, mais on va se faire chier avec monnaie complémentaire, c'est compliqué. Nous, on achète tout localement. » Ouais, mais c'est une illusion. Parce qu'au moment où ils achètent en euros, en fait, c'est vrai qu'ils donnent leur argent à un producteur local. Mais en fait, ils ont la maîtrise de cet argent-là juste au moment où ils le donnent. D'abord, ils ne savent pas d'où ils viennent, cet argent. Donc il a pu très bien venir d'un endroit qui n'était pas du tout respectueux des humains et de la nature. Et nous, on sait qu'au bout de 2,4 fois, l'argent qu'il a donné à son producteur local, il va se retrouver sur les marchés financiers. Alors que s'il transforme ses euros en sol, donc c'est la monnaie complémentaire que nous on utilise, le sol violette, s'il transforme son euro en sol, quand il va donner son sol, le producteur sera obligé de le redépenser dans le réseau, sinon il devra payer une taxe de 5%, donc ce n'est pas son intérêt. Donc il va la redépenser dans le réseau, respectueux des humains et de la nature, et quand il va recevoir du sol, lui, par exemple dans son salaire, comme on est en train de le faire avec les salariés des commerçants qui acceptent le sol, eh bien il sait que cet argent, il provient d'une économie respectueuse des humains et de la nature. Et nous, on dit que la monnaie complémentaire, c'est l'extension de la démocratie au marché. C'est voter avec sa monnaie. On dit, nous, sur nos billets, il y a écrit « Faites de votre monnaie un bulletin de vote ». Si les gens savaient la puissance qu'ils ont entre les mains avec l'argent, au lieu de dire que c'est mal, que c'est laid, qu'il ne faut pas y toucher, qu'il n'y a que les riches qui doivent y toucher, s'ils transformaient cette monnaie en bulletin de vote, mais ça changerait beaucoup plus vite, parce qu'on vote tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc imagine le temps qu'on pourrait gagner si les gens commençaient à réorienter leur force monétaire vers des produits respectueux des humains et de la nature. La transformation se ferait très très vite, très très vite.
Mais ça nécessite une réflexion, et peut-être qu'on est fondamentalement paresseux, on va vers la facilité, et se poser les bonnes questions, c'est quelque chose qui nécessite déjà peut-être de se remettre en question.
Alors, se remettre en question, oui, je pense, et c'est là que nous, on a un rôle à jouer, nous, ceux qui ont commencé à comprendre comment ça marche, pour des raisons historiques ou des accidents de la vie, un peu comme j'expliquais tout à l'heure, c'est qu'on a un devoir d'éducation populaire, c'est-à-dire un devoir de faire passer ce message à d'autres pour qu'eux-mêmes se mettent à comprendre. Toutes les grandes phases de transformation sociétale sont passées par une phase d'éducation populaire. Par exemple, quand on parle de la plus-value de Marx, il s'est écoulé 80 ans entre le moment où ça a démarré et le moment où finalement on a compris qu'il y avait peut-être un peu d'exploitation dans le rapport de force de production. Donc en fait, il y a cette phase d'éducation populaire qui devance en quelque part la transformation. Et j'aime bien raconter une histoire, c'est deux petits poissons qui nagent dans l'océan et ils rencontrent un vieux poisson accoudé sur ses nageoires, tout ça. Et puis le vieux poisson leur fait « Salut les gars, ça va ?» Alors il dit « Oui, ça va ». Puis là, il les regarde avec un air coquin et puis il leur fait « Comment va l'eau aujourd'hui ?» Et là, les deux petits poissons, ils regardent, ils font « Mais c'est quoi l'eau ?» Ben, le citoyen, il est un peu comme ça avec la monnaie, en fait. Pour lui, c'est pas encore un objet politique. C'est hors du champ politique. Et donc, justement, notre travail, par un travail d'éducation populaire, c'est de faire rentrer, en fait, la monnaie comme objet politique.
Ok, j'ai besoin d'avoir une vision, de comprendre un petit peu mieux, parce qu'aujourd'hui, on parle de l'euro, mais il n'y a pas que l'euro, il y a le dollar, il y a le yen, il y a plein de monnaies différentes. Comment est-ce que tout ça, ça peut se coordonner? Parce qu'aujourd'hui, on ne vit pas sur un système autonome, on vit sur un système global et mondial, où les échanges sont permanents et constants. Donc comment est-ce qu'on peut réguler tout ça?
Alors justement, les monnaies complémentaires et locales sont un outil vraiment... Alors, c'est pas le seul. Attention, je pense qu'il y a une boîte à outils de la transition dans laquelle il y a les monnaies complémentaires et locales, ou monnaies citoyennes. Il y a d'autres outils, comme par exemple le revenu d'existence, les circuits courts, les coopératives, etc. Il y a un certain nombre d'outils dont on doit se munir pour changer, pour faire cette transition. Mais les monnaies complémentaires ont un rôle à jouer très important dans la transformation du système financier. Ce n'est pas du tout un gadget, c'est vraiment un outil très très puissant et je vais essayer d'expliquer pourquoi. D'abord, il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, ce système ne fonctionne que parce que les marchés financiers sont dopés par le crédit. C'est quoi le crédit ? Le crédit, en fait, c'est la capacité qu'on a donnée aux banques commerciales. La plupart des banques commerciales le font, toutes d'ailleurs. Et qu'est-ce que c'est cet outil ? En fait, c'est qu'ils ont droit de monétiser une dette. Alors, ça veut dire quoi, monétiser une dette ? Les gens, ils croient que quand ils regardent leur relevé bancaire, en bas, là, il y a un solde, ils se disent, tiens, j'ai 1000 euros. Oui, c'est écrit dessus. Mais en fait, la réalité, c'est qu'ils n'ont pas 1000 euros. La réalité, c'est que la banque, qui dit qu'ils ont 1000 euros, elle n'a que 150 euros de vraie monnaie, pièces et billets fournis par la banque centrale. Les 850 euros qui restent, en fait, ce sont des crédits. Les crédits, qu'est-ce que c'est ? C'est que quand quelqu'un va, par exemple, faire un emprunt dans une banque, pour acheter une voiture, par exemple, il arrive, il dit « Bonjour, je voudrais un emprunt ». Alors, le banquier, il va mesurer un petit peu la solvabilité. S'il pense que la personne est solvable, il va lui faire un crédit. Et c'est quoi un crédit ? Alors, les gens, ils pensent que c'est l'argent, il va aller dans son coffre-fort, le banquier, il va aller dans son coffre-fort, chercher un paquet de billets qu'il va donner ensuite à la personne qui va faire le crédit. Pas du tout. En fait, il ouvre un livre de compte, en fait, il est numérique, son livre de compte, il va inscrire que la personne lui doit 10 000 euros, et de l'autre côté, il va dire « je lui mets à disposition 10 000 euros ». Mais ces 10 000 euros, ils n'ont jamais existé avant. Et au fur et à mesure que la personne va rembourser en fait son crédit, eh bien cette monnaie va être détruite. Voilà. Et c'est comme ça aujourd'hui que fonctionne ce système. Donc 85% de la monnaie en circulation, c'est une monnaie en fait, c'est une monnaie de singe. Maurice Allais, il disait que si on faisait ça nous, on irait en tôle. Donc c'est vraiment ça le problème. Alors, comment ils peuvent faire autant de crédits ? Parce que c'est bien ça le problème. C'est qu'avec ce crédit, ils financent en excès les marchés financiers et pas l'économie réelle. Eh bien, c'est parce qu'en fait, ils peuvent faire ça parce qu'ils ont un dépôt de la monnaie centrale, de la Banque de France, la Banque Centrale Européenne aujourd'hui. Et donc, pour 1 euro, ils peuvent faire 12 fois plus de crédits. Alors, comment les monnaies complémentaires peuvent nous aider à remettre ça au service de l'homme et de la nature ? Eh bien, tout simplement, en allant rechercher cette monnaie centrale dans les banques commerciales, donc les pièces et les billets, en la transférant vers des banques éthiques. Et du coup, quand on fait ce simple geste-là, on divise par 12 la capacité de crédit de ces réseaux bancaires-là, et on multiplie par 12 la capacité de crédit des réseaux bancaires éthiques.
Comment on calcule ce 12, ce 12%, ce x 12 ?
Ce 12, en fait, il est calculé, on va dire, de façon un petit peu empirique, mais en gros, on sait qu'aujourd'hui, une banque, à partir des dépôts qu'elle a, donc de la monnaie centrale qu'elle a en compte, elle peut faire 12 fois plus de crédit qu'elle n'a de capital, pour aller vite. Et ce capital, il est constitué d'une part du patrimoine qu'elle a, bien sûr, mais surtout d'une réserve obligatoire qu'elle doit avoir à la banque centrale en monnaie centrale. Donc aujourd'hui, on sait que par rapport à la monnaie centrale qu'une banque détient, elle peut aux alentours créer à peu près 12 fois plus de dettes. Et donc, quand tu vas chercher cette monnaie centrale, que tu la prends d'une banque commerciale et que tu la mets sur une banque éthique, le rapport est de 24. C'est-à-dire, avant ton argent, il servait à faire 12 fois plus de crédit pour les marchés financiers. Donc du coup, ils ont 12 fois moins d'argent pour les marchés financiers. Et avant, nos banques éthiques, elles n'avaient pas de crédit parce qu'elles n'avaient pas assez de dépôts. Et là, elles se retrouvent avec 12 fois plus de crédit parce qu'on a ramené des dépôts chez eux. Et en plus, le titre de dette qu'on reçoit va servir à circuler à l'intérieur d'un réseau qui respecte l'homme et la nature. C'est exactement ce qu'eux, ils font sur les marchés financiers. Ils s'échangent des titres de dette entre eux, alors que l'argent est bien stocké chez les banques. Et bien nous, on fait exactement la même chose, mais on le remet au service en fait, de l'économie réelle. Alors le sol violette, en fait, il est né d'abord de la rencontre que j'ai faite sur un festival en fait qui s'appelait l'Humanité équitable, organisé par Emmaüs du Tarn-et-Garonne. Et une amie m'avait invité, Andréa Carreau, et puis bon, j'intervenais sur les monnaies complémentaires. J'appartenais déjà au mouvement Sol. Le mouvement Sol, c'est un mouvement qu'a créé Patrick Vuveret dans les années 2005-2006. C'est un projet expérimental pour remettre la monnaie au service de ce qui a de la valeur pour nous, c'est-à-dire avec une valeur sociétale et environnementale. Il avait présenté ce projet dans un rapport qui s'appelait les nouvelles formes de richesse. Et donc l'association Mouvement Sol s'est créée dans les années 2005. Pendant 3 ans, ils ont fait des expérimentations. Et donc, moi, je suis rentré à peu près à cette époque-là. Et quand j'ai rencontré Jean-Paul Blas, qui n'était pas encore sur la liste de Pierre Cohen à Toulouse, il était membre de la DPS, il a trouvé vraiment ça super. Il a dit, il faudrait vraiment qu'on arrive à faire ça à Toulouse. Et il se trouve que 2 ans plus tard, il a été élu sur la liste de Pierre Cohen. Et donc, il m'a appelé, il m'a dit, Fred, ça y est, on va pouvoir mettre en place une monnaie complémentaire sur Toulouse. Donc, je suis allé le voir. On a travaillé de suite avec des associations locales, parce qu'on voulait vraiment co-construire le projet avec les citoyens. Donc on a fait appel à 3 associations, une qui était plutôt orientée développement durable, une plutôt orientée accompagnement en création d'entreprises de l'économie sociale et solidaire, et une 3e association qui s'appelait Folie, qui elle était plutôt orientée autour de la formation à l'économie sociale et solidaire. Et avec ce comité de pilotage, en fait, on a organisé une première réunion où on a appelé finalement tous les réseaux qu'on connaissait, et on a présenté le film La double face de la monnaie, on a expliqué le projet de monnaie complémentaire qu'on voulait faire à Toulouse. Il y avait plus de 120 personnes qui sont venues. Pendant un an, on a co-construit ensemble le projet du sol violette, à quoi allait servir cette monnaie, comment elle allait fonctionner, quelles étaient les règles du jeu, comment on allait décider. Et tout ça, on l'a réuni sous forme d'un rapport avec un budget, on l'a présenté à Pierre Cohen. Et Pierre Cohen a trouvé ça très intéressant. Il dit ben, banco pour me faire cette expérimentation pendant un an. Et donc en 2011, on a lancé le projet. On a lancé le projet avec un objectif d'une 30aine de prestataires et 150 solistes. Et puis il y a eu un très gros engouement puisque très rapidement, on est passé à 200, 300, 400. Et aujourd'hui, on est plus de 700 adhérents. Et il y a plus de 100 entreprises maintenant qui acceptent le sol violette à l'intérieur du réseau. Et ce qui est très très important, c'est que quand on a fait un audit pour évaluer un petit peu le travail qu'on avait fait, c'est une sociologue qui allait faire des enquêtes auprès des gens, et il y a 2 choses que les gens ont vraiment appréciées. La première, c'est que grâce à la monnaie complémentaire qu'ils ont utilisée, ils ont compris des mécanismes financiers qu'ils n'avaient jamais compris avant, et c'est vraiment l'objectif d'une monnaie complémentaire. En premier, c'est l'éducation populaire, la réappropriation citoyenne de la monnaie, en comprenant comment ça marche. Et la deuxième, c'est qu'ils avaient apprécié aussi la façon démocratique dont le projet avait été monté, car effectivement, au sol violette, le comité local d'agrément qui gère la monnaie est géré au consensus, au consentement et aux 2/3 des voix. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une démocratie réelle, formelle, que nous avons essayé de mettre en place. Et c'est ça qui est très important dans le mouvement sol, c'est que toutes ces monnaies qui se sont créées veulent travailler sur une monnaie commune, en fait, pour avoir un effet de levier de transformation sociale, ce qui fait qu'un sol violette peut être converti en sol numérique, et à partir de ce sol numérique, on peut repasser sur du sol alpin, ou du sol ch'ti, ou du sol breton, et c'est là que ça devient intéressant, c'est que du coup, là, on ne sait plus un territoire géographique qu'on est en train de construire avec une monnaie, mais c'est un territoire de valeur. Et ce territoire de valeur, en fait, c'est la monnaie qui va faire le lien. La monnaie, quand on regarde, elle a toujours fait le lien dans les grandes transformations sociétales, que ce soit les États-Unis, que ce soit la Révolution française, que ce soit l'Union soviétique. Au début, il y a eu d'abord le contrôle de l'appareil de production et la monnaie. Et je pense que la monnaie, c'est vraiment le point de passage oublié si on veut faire un lien entre nous, sans oublier bien sûr qu'il existe des valeurs qui ne sont pas monétaires. Mais pour ces échanges marchands, faire de sa monnaie un bulletin de vote, c'est vraiment extrêmement important. Thank you.